je me suis rendu compte aussi d'une chose intéressante, particulière. En partant en Afrique, j'y suis parti avec l'intention, avec une pensée de donner, oui. Mais après les années, oui, je me suis retourné en Afrique après 3 fois. Donc après des années de contact avec l'Afrique, maintenant je sais très bien que j'ai reçu beaucoup plus que je n'ai donné, oui. Donc cet échange, c'est pas la rue avec le sens unique, oui. L'échange est bilatéral. Vous donnez quelque chose, ben vous recevez aussi beaucoup en y travaillant.
Bonjour à toutes et à tous. Ces propos sont ceux de Marcel Drlik, chirurgien pédiatre, qui travaille aujourd'hui dans un hôpital de Prague. En 2000, ce jeune médecin tchèque a dirigé pendant un an l'hôpital de Bozoum, situé dans le nord-ouest de la République centrafricaine. À son retour au pays, Marcel Drlik a écrit un livre traduit en français et intitulé simplement « Un médecin tchèque en Afrique ». Dans ce livre, comme dans l'entretien qu'il nous a accordé à l'occasion de ses fêtes de Noël, Marcel Drlik raconte sa découverte d'un pays et d'un peuple mal connus et témoigne de son expérience de médecin dans la brousse. 7 ans plus tard, alors qu'à des milliers de kilomètres de là, courent dans les rues centrafricaines des dizaines d'enfants prénommés Marcel en l'honneur du médecin qui les a aidés à venir au monde, Marcel Drlik est devenu un père de famille comblé. Pour autant, le fameux mal d'Afrique qu'évoquaient à leur retour au pays les colonisateurs français, pour traduire l'attirance exercée sur eux par le continent noir, ne l'a pas quitté. Il explique pourquoi.
L'Afrique me manque parce que c'est un continent de couleur, c'est un continent des gens qui sont ouverts, amicaux. Donc, c'est vrai, je garde un profond désir de retourner un jour en Afrique. Oui, à présent, pour moi, c'est quand même difficile parce que j'ai la famille, un petit enfant, mais je garde des liens. Et surtout, ça fait une année, j'ai fondé avec mes amis une organisation non gouvernementale qui s'appelle Siriri. Ça veut dire paix en langue sango. C'est la langue qu'utilisent les gens en Centrafrique. Et notre ONG prépare des projets de développement. À présent, nous préparons un projet de puits pour les enfants de la rue et aussi un dispensaire pour les orphelins qui aussi vivent dans la rue car, comme vous savez sûrement, l'épidémie de sida en Afrique faire des dégâts énormes. Donc ce sont nos projets de début, mais nous voulons bien continuer aussi avec le projet dans le domaine de la santé publique, de la scolarité et finalement aussi dans le domaine de l'agriculture.
Vous avez écrit un livre suite à votre séjour qui a été également traduit en français. Le titre est « Un médecin tchèque en Afrique ». On suppose que si vous avez écrit ce livre, c'est parce que c'est une expérience qui n'est pas fréquente. En France, les contacts avec l'Afrique sont plus développés, les missionnaires, les médecins sont plus nombreux en Afrique. En revanche, pour un Tchèque, c'est moins courant. Comment vous est venue l'idée de partir comme ça en Afrique et comment s'est réalisée votre idée de projet?
Oui, vous avez raison. Il faut souligner que notre pays n'avait pas une expérience de colonie. Donc, nous sommes un petit pays au centre d'Europe. Donc, ça nous manque, cette histoire. Et deuxièmement, après la chute du mur de Berlin, les gens dans notre pays étaient orientés vers l'Union européenne. Et aussi, il n'y avait aucun projet qui s'occupait de l'aide humanitaire, disons. Et dans les années 90, moi, j'ai fini les études à l'université et j'ai rêvé de certains projets comme ça. Donc, j'ai rêvé de passer quelques mois ou certains temps en Afrique, soit à l'Amérique du Sud, en y travaillant comme médecin, en aidant un peu les gens qui ont besoin de ça. Donc, j'ai envoyé beaucoup de lettres en Europe, en Amérique, mais il faut dire que je n'avais pas le succès, car mon pays, la République tchèque, n'était pas absolument connu. Oui, c'était un pays un peu nouveau pour les grandes organisations occidentales. Mais finalement, par hasard, j'ai rencontré à Prague une vieux père italien, Carme, qui s'appelait père Anastasio, qui avait vécu longtemps en République centrafricaine à la mission. Donc je lui ai parlé de mon rêve et finalement on s'est mis d'accord. Le principe était que la mission me permettra un logement et le repas dans la Prusse, en Centrafrique, en échange de travail volontaire, médical, aussi gratuit pour la population locale. Mais il me fallait encore plusieurs années pour me préparer. D'abord, j'étais obligé d'apprendre français, après d'apprendre la médecine tropicale, car cette spécialité n'a aucune tradition en Europe centrale. Et aussi, j'étais obligé de chercher un soutien matériel. Donc, j'ai envoyé des demandes aux différentes organisations, aux entreprises qui m'ont finalement envoyé une aide, donc le matériel médical, des médicaments, qui m'ont permis finalement mieux travailler pour les gens en besoin en Afrique.
Comment s'est passée votre préparation à ce séjour plus concrètement? Vous avez passé quelque temps, si je ne me trompe pas, à Lyon.
Oui, moi j'ai fait un cours de la médecine tropicale qui a duré 3 mois à Lyon. Aussi, en étant soit à Lyon ou bien ici à Prague, j'ai visité mes amis médecins qui ont travaillé dans d'autres spécialités. Moi, je suis chirurgien des enfants. Donc, je suis allé, par exemple, chez ophtalmologue, voir des interventions ophtalmologiques. Et j'ai visité mon ami qui a travaillé à la maternité, voir comment se passe l'échographie prénatale. Et comme ça, donc, je me suis rappelé et approfondi aussi des autres spécialités, car je savais d'être seul médecin en Afrique.
Alors on peut supposer qu'après ce temps de préparation, vous étiez averti des conditions de vie et de travail qui vous attendaient en Afrique, mais malgré tout, lorsque vous êtes arrivé, y a-t-il quelque chose qui vous a surpris et la réalité a-t-elle dépassé peut-être ce que vous imaginiez?
Oui, j'étais averti de conditions en Afrique, mais la réalité a bien dépassé toutes mes imaginations. Par exemple, car ils m'ont dit qu'à l'hôpital, il n'y a pas beaucoup de choses. Moi, j'estimais de trouver là-bas un équipement de base, comme ça. Mais il n'y avait vraiment rien. Oui, il n'y avait rien. Par exemple, pendant le week-end, quand la pharmacie était vide, oui, après une semaine de travail, il y avait quelques jours, on avait des difficultés de trouver même la compresse à l'hôpital. Donc, vraiment, il y avait manque de toutes les choses. On devait bricoler tous les jours, plus ou moins. Deuxièmement, je savais qu'à l'hôpital, il y a un médecin africain. Oui, il y avait un médecin africain. Pourtant, il était chargé comme un médecin chef de l'hôpital préfectoral, de prise en charge de la santé communautaire dans la préfecture. Donc, il a voyagé beaucoup. Il a suivi 3 autres plus petits hôpitaux dans cette région. Oui, c'est une région qui est grand presque comme un pays, oui. Donc, on ne parle pas des distances de dizaines de kilomètres, plutôt des centaines de kilomètres. Donc, il a voyagé à la capitale, aux autres hôpitaux. Donc, il était presque tout le temps absent. Aussi, pour moi, c'était un surpris parce que je pensais d'être là-bas pas vraiment seul. Si je parle de 12 mois de mon premier séjour, à peu près 8 mois et j'étais un seul médecin dans l'hôpital.
Donc vous dirigez en fait cet hôpital, vous vous étiez préparé à travailler aux maladies, donc vous l'avez dit, tropicales. En revanche, vous n'étiez donc pas préparé à diriger une équipe de collègues africains. Comment se passaient justement les relations de travail avec les Africains?
Je pense qu'après certains temps, au début, oui, quand je suis arrivé en Afrique, j'étais quelqu'un nouveau pour eux. Donc, en travaillant avec eux, pas à pas, j'ai gagné leur confiance, leur amitié. Donc, cela traînait quelques semaines. Mais je crois qu'ils ont vu que je suis arrivé là-bas pour eux. Donc, après quelques semaines, je me suis entendu très bien avec eux. Et on a vraiment coopéré. Plusieurs fois, ils m'ont invité aussi à manger chez eux. Je n'avais pas vraiment un grand problème de s'entendre avec eux. Ce qui était vraiment un problème, c'était le manque de tout. Parce que l'hôpital où je suis travaillé, c'était un hôpital d'État. C'était pas un hôpital missionnaire, pas un hôpital privé. C'était un hôpital de la brousse qui appartenait d'État centrafricain. Tous les employés n'étaient pas payés depuis 15-12 mois. Donc, chaque jour, on devait résoudre un problème. Comment traiter les gens avec ce qu'on a trouvé dans l'hôpital? Oui. Donc, comme j'avais déjà dit, c'était vraiment la bricolage quotidienne. Par exemple, on a traité une blessure du thorax avec le saignement dans la poitrine, dans le thorax, pas avec une tube thoracique, mais avec une sonde vésicale, oui, sonde qu'on met dans le vessie. Ou bien on n'avait pas une cuvette pour des nouveau-nés. Donc on a utilisé des bouteilles remplies d'eau chaude en baleine dans une pagne africaine pour réchauffer l'enfant. Donc on était vraiment obligé d'inventer toujours des solutions de survie, oui.
Vous avez évoqué au début de l'entretien le sida. C'est un fléau qui fait, on le sait, beaucoup de dégâts en Afrique. Vous avez également évoqué le manque de moyens dans votre hôpital et d'une manière plus générale dans les hôpitaux en Afrique. Par exemple, pour une maladie comme le sida, on sait que des progrès peuvent être faits dans le combat, dans la lutte contre la maladie, grâce à une formation des gens, une certaine forme d'éducation. Pensez-vous que cela est possible par rapport à tout ce que vous venez de nous raconter et à la façon de vivre et de voir les choses des Africains?
Oui, formation des gens, formation des enfants qu'on peut encore former, oui. C'est difficile de former une personne adulte ou personne vieux. Oui, c'est principal, c'est le plus important, mais soyons réalistes. Ici, en Europe, beaucoup de gens fument, oui. Vous pouvez trouver des affiches partout contre fumeurs. Les enfants à l'école apprennent depuis l'enfance que c'est dangereux pour la santé. Donc la formation, le message passe depuis l'enfance ici en Europe. Est-ce que les gens ont arrêté de fumer? Non, pas du tout. Donc ça veut dire que la formation qui cible un changement de comportement qui est bien inséré dans la population, c'est la question des dizaines d'années, oui. Il faut former vraiment quelques générations afin que quelque chose change. Donc, je suis sûr aussi que après quelques dizaines d'années de formation en Afrique, les gens changeront probablement leur comportement. Mais est-ce que nous avons tellement de temps? Oui. Ça, c'est la question. Donc, la formation, très bien, c'est la base, oui. Mais ça prendra beaucoup de temps. En ce qui concerne le traitement, jusqu'au présent, nous n'avons pas le traitement définitif de sida. Oui, ici en Europe ou en Amérique, les gens prennent des médicaments, mais jusqu'à la fin de la vie. Si vous donnez à la brousse, au villageois qui ne sait ni lire ni écrire, un médicament, oui, il le prend certain temps, il se sent bien, il arrête le traitement, oui. Il ne prend pas le traitement toute la vie quand il se sent bien. Oui, donc c'est pourquoi, par exemple, le traitement de hypertension, le traitement de diabète, c'est très difficile en Afrique, parce que c'est le traitement à vie. Donc, personne, un homme doit être motivé de prendre le traitement toute la vie, d'abord, puis il doit avoir des moyens d'acheter le médicament à vie. Donc, le niveau de connaissance à présent, le niveau de connaissance médicale, il ne nous permet pas de résoudre le problème. Mais espérons que les chercheurs, les scientifiques, trouveront par exemple un vaccin ou le traitement définitif avec lequel on peut traiter le sida dans un certain temps. Oui. Et sinon, je suis plutôt pessimiste. Oui.
Vous dites que vous êtes pessimiste. Lorsque vous êtes parti en Afrique, on peut supposer qu'un jeune comme vous, un jeune médecin, à certains objectifs, certains idéaux, peut-être une envie de changer les choses. Avec le temps, avec la pratique, n'est-on pas confronté à une certaine forme de découragement parce que la situation finalement en Afrique ne s'améliore pas, au contraire.
Eh oui, mais il faut comprendre que je ne suis pas allé en Afrique de changer le monde, oui. C'était les communistes chez nous qui ont pensé de changer la société, oui. Ils ont parlé d'un homme nouvel, homme nouveau, oui. Mais c'est la rêve, oui. Une personne ne peut pas changer le monde. Moi, je suis allé en Afrique afin d'aider certaines personnes concrètes que je rencontre pendant quelques mois, oui. Donc peut-être je suis aidé aux quelques centaines de personnes, mais je suis sûr de ne pas avoir changé le monde. Oui, l'Afrique restera toujours comme ça. Mais peut-être cette centaine de personnes à qui je les aidais, ils aideront aussi un jour à quelqu'un d'autre. Peut-être comme ça, ça peut doucement changer quelque chose. Ici, après mon retour dans mon pays, j'ai donné des lectures, je suis écrit un livre, donc j'ai fait la publicité pour l'Afrique, j'ai fait la publicité pour l'aide humanitaire. Donc je suis rencontré beaucoup de jeunes, surtout des jeunes ici dans mon pays, qui étaient aussi prêts à aider. Donc j'espère peut-être influencer quelqu'un qui fera aussi une petite partie de son travail. Et peut-être elle influencera quelqu'un d'autre. Donc, avec cet effet de domino, peut-être les choses peuvent changer un peu. Mais je suis réaliste, je pense qu'une personne ne changera rien du tout. Oui. Mais encore, j'aimerais dire que même je vois réellement tous les problèmes en Afrique. C'est comme ça, mais si vous voulez faire quelque chose, il ne faut pas se décourager, oui. C'est trop facile, oui. Dire, c'est trop grand pour moi, oui. C'est trop difficile, oui. Laissons tomber, oui. Non.
Qu'est-ce que l'Afrique vous a donné, vous a offert?
Moi, je pense que l'Afrique m'a élargi bien des horizons. Vous savez, ici en Europe, on vit bien. On vit bien. On est bien habitué à toutes les choses ici. Il y a l'eau courante, l'électricité, il n'y a pas assez de repas. Oui. Ici, dans mon pays, on peut dire que presque chacun vit bien. Oui. Bien, nous ne sommes pas tellement riches comme les Américains ou bien comme des Allemands, mais la pauvreté n'existe pas ici. Donc, peut-être, je me suis appris d'estimer les choses courantes. Oui, donc je pense que je me suis rendu compte plus de ce qui est vraiment important dans la vie. C'est pas les choses qu'on peut acheter. En Afrique, les gens sont pauvres, mais ils sont gais, ils sont contents, ils sont heureux. Donc le sentiment d'être heureux, ce n'est pas lié à la fortune, à l'argent. J'ai appris aussi plus, par exemple, la valeur de l'amitié, de l'importance de la famille, car moi je pense que c'est un des les plus grands valeurs en Afrique, c'est la famille africaine, qui est un soutien pour chaque membre de cette famille. Ici en Europe, on est en train d'oublier cette valeur. Donc aussi, je pense que j'estime maintenant beaucoup plus la famille traditionnelle. Et ce sont les petites choses, on pourra parler beaucoup plus de ça. Donc, j'avais une possibilité de sortir de mon milieu et de regarder la vie en Europe, disons, d'un point de vue ailleurs. Oui, c'est ça. Et peut-être maintenant, je peux plus comprendre la vie ici. Oui, on a avoir la possibilité de comparer des deux milieux tout à fait différents.
Et par rapport à ça, n'avez-vous jamais envisagé soit de retourner pour vous installer en Afrique, ou à la fin de votre séjour, si vous n'avez pas envisagé de rester? On connaît votre décision puisque vous êtes revenu à Prague.
Oui, mais je suis ici à Prague, chez moi. J'ai ma famille ici, j'ai la femme, mon petit-fils qui est ici. J'aime bien aussi la tradition tchèque, la culture tchèque. Donc, je me sens être un Européen. Et je suis bien ici, oui. Même en étudiant, en travaillant en France, ils m'ont proposé ici de rester, par exemple, de travailler à Paris, à l'hôpital. Mais vraiment, je suis ici bien. Après, même je gagne moins qu'en France. Donc c'est pas la question de l'argent. Ici, c'est, disons, c'est vraiment le milieu où je me suis senti bien, où je suis habitué, où j'ai des liens amicaux. Pourtant, j'aime aussi bien l'Afrique. Donc on peut dire que c'est un peu le deuxième foyer, oui. Je sais pas comment dire cela. Donc j'aimerais bien retourner là-bas. Je n'ai pas oublié l'Afrique, donc je continue à aider l'Afrique. Pourtant, je suis bien convaincu que l'Afrique, c'est le pays des gens qui vivent là-bas. C'est le pays des Africains, donc c'est pas le but que les Européens se déplacent vivre en Afrique. Et à l'inverse, oui. Donc, il faut coopérer, et il faut s'aider. Mais chacun a son coin dans cette planète, oui.
Enfin, dernière question, puisque cet entretien est diffusé le jour de Noël. Avez-vous eu l'occasion de vivre un Noël en République centrafricaine?
À vrai dire, je n'avais pas la possibilité de vivre Noël en Centrafrique. Je suis allé en Afrique quelques jours après Noël et je me suis retourné quelques jours avant Noël. Mais quand même, j'ai vécu l'avant, oui, j'ai vécu la semaine avant Noël en Afrique. Oui, c'est quelque chose tout à fait différent. Ici, à Prague, l'image de Noël est liée avec les maisons illuminées et qui sont couvertes de la neige, oui. Mais là-bas, il y avait des palmes, tout, la nature était fleurie, oui. On a vécu le chaleur de 28, de 30 degrés. Ici, la température souvent baisse au-dessous 0 degrés. Donc, c'était quelque chose vraiment très inhabituel, oui, pour moi.
Et puis surtout, la principale différence, c'est que le petit Jésus est noir quand même.
Oui, mais le petit Jésus, je pense que le petit Jésus était français, un peu. Oui, le petit Jésus était juif. Les juifs, ils n'étaient pas blancs. Ils ne sont pas ni blancs, ni européens, ni noirs, oui. Donc, si vous arrivez ici à Prague, le petit Jésus a cheveux blonds. Mais en réalité, le vrai Jésus, il avait probablement les cheveux noirs, oui, c'est ça. Donc, chaque nation à son image de Jésus. Oui, ici en Europe, c'est un enfant blanc. En Afrique, c'est un enfant noir, mais toujours, c'est un seul Jésus. Oui.
Voilà, c'était donc Marcel Drolik, un médecin tchèque en Afrique. Et pour en savoir plus sur son ONG, Siriri, S-I-R-I-R-I, et éventuellement apporter votre soutien à ces différents projets d'aide humanitaire, vous pouvez consulter le site internet au www.siriri.org, un site disponible également en français. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël. Vesele Vanotse. Au revoir, merci et à bientôt. Shabantu bagiti sebe shulubuku shabalo njalo ano dame sebe shulubuku shabalo njalo Yomu nye uchimuye Yomu nye uchimuye wasio Yomu nye uchimuye Yomu nye uchimuye wasio Yomu nye
Ano dame avant tu bagi tu balo jalo.